Christelle Robière, Vincent Parisot, les invités de RTL Midi.
On parle donc ce midi d'un phénomène qui prend énormément d'ampleur dans les cours de collège, notamment la cyberviolence. On est avec Catherine Moisan, la directrice de l'évaluation de la prospective et de la performance, donc à l'Éducation nationale, et Justine Atlan, la directrice de l'association e-enfance. Parlons de ce phénomène, hein, qui a quasiment doublé en 2 ans. C'est preuve qu'il se passe quelque chose, quasiment 1 sur 5, on disait 18% sont concernés. C'est quoi cette cyberviolence, Catherine Moisan? Comment on peut la définir?
Alors, comment on peut la définir? C'est un élève, puisque ce sont des collégiens, hein, là, dont on parle. Nous, on fait une enquête victimation, on interroge les collégiens. Pas tous, bien sûr, mais 21 600 collégiens, un échantillon. C'est 360 collèges, quand même, ouais. Public et privé. Bon. Et ils nous racontent, dans le questionnaire, toutes les violences qu'ils peuvent subir ou pas. Oui. On a fait cette enquête et on a voulu faire un zoom sur la cyberviolence. Alors, la cyberviolence, c'est avoir au moins une fois été soit injurié, soit humilié, ou avoir reçu des photos, des films, soit par SMS, soit par les réseaux sociaux.
Et pourquoi est-ce que c'est plus difficile à vivre, plus douloureux qu'une insulte verbale, comme nous, on les a connues?
Alors, ça, c'est très important comme remarque, parce que, en fait, dans cette enquête, on voit qu'il y a 57% des collégiens qui se font insulter dans la cour de récréation. Je ne parlerai pas des noms d'oiseaux à l'Assemblée nationale, mais bon, voilà. Pourquoi c'est plus préoccupant, même si c'est plus faible, bien sûr, c'est que c'est pas la même chose. D'abord, il y a des phénomènes de dissémination. C'est-à-dire que quand on prend les canaux cyber, SMS ou surtout les réseaux sociaux, un tiers à peu près de ces phénomènes ne sont pas envoyés au seul destinataire. Ils sont envoyés à des groupes beaucoup plus larges. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça se passe tout le temps. Ça peut arriver la nuit, ça peut arriver et ça reste. Une injure dans la cour de récréation, on la connaît bien, ça, je veux dire, c'est fait, ça passe, etc. Le troisième problème très différent, c'est que les jeunes pré-ados ou ados qui font ça ont un sentiment d'impunité. C'est-à-dire qu'on n'est pas en face de celui qu'on a juré, contrairement à la cour de récréation. Et ça, c'est un vrai problème parce que, d'abord, on peut pas, plus difficilement, bien sûr, savoir d'où ça vient, mais surtout leur sentiment à eux est presque un sentiment d'impunité. C'est-à-dire, on peut le faire, il va rien se passer.
Alors, il y a quelque chose qui a retenu un petit peu notre attention aussi dans votre étude, c'est que les élèves les plus touchés sont des élèves de 3e et que ce sont surtout des filles. Est-ce que vous savez pourquoi?
Alors, c'est plus souvent des filles que des garçons, c'est-à-dire en clair, il y a à peu près 21% de filles et 16% de garçons, il y a une différence significative, c'est effectivement plus souvent des filles, alors que les victimations globales, si on prend les violences physiques, etc., c'est plus souvent des garçons. C'est plus souvent des garçons.
Oui, mais là, plus humiliant,
et
par
là,
exemple, si on se moque de la tenue vestimentaire.
Parce qu'il y a les moqueries sur la tenue vestimentaire, il y a les films, etc. Et on constate. Alors, pour les jeunes plus âgés, ça s'explique très très bien. C'est-à-dire que c'est moins fréquent chez les élèves de 6e que chez les élèves de 3e. Ça s'explique aussi par l'âge des élèves.
Oui, ils sont moins sur ces réseaux sociaux.
Et puis, ils sont moins sur les réseaux sociaux.
Justine Atlan, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement quels sont les différents types de cyberharcèlement que vous rencontrez au sein de votre association? Quelques exemples.
Alors déjà, vous parlez de cyberharcèlement, donc c'est une particularité par rapport à la cyberviolence que vous venez d'évoquer.
Cyberharcèlement, c'est quand c'est répété.
C'est-à-dire que dans le cyberharcèlement, il y a vraiment une volonté très forte de nuisance de l'acteur, de l'agresseur, où on assiste quand même à des volontés quasiment de mise à mort, en tout cas virtuelle, parfois malheureusement physique, avec des incitations au suicide qui sont caractérisées, avec effectivement ensuite un instinct grégaire où il y a tout un groupe qui va se mettre effectivement derrière un agresseur, parce que les réseaux sociaux le permettent davantage que physiquement, et vont lyncher vraiment en ligne un élève ou une élève, en lui disant voilà, qu'est-ce que tu fais encore en vie, tu ne mérites pas de vivre, etc. Alors ça se passe effectivement sous différents vecteurs, les SMS évidemment, des envois de photos ou d'images, des usurpations d'identité sur les réseaux sociaux, beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a des profils qui sont créés sur des réseaux sociaux comme Facebook au nom de l'élève, en se faisant passer pour elle ou pour lui. Alors pour une fille, ça
des
va
faux comptes,
se faire passer pour une fille facile, ou un garçon qui va insulter les profs, etc. Et la personne, comme c'est pas elle qui l'a créé, ou si elle l'a créé, on lui a volé son compte, ne peut pas le récupérer, donc se trouve effectivement et se met un certain temps à se rendre compte qu'en fait les gens la regardent bizarrement ou vont lui dire des choses, parce que ça c'est très courant, l'usurpation d'identité sur les réseaux sociaux. Puis ensuite, ben, c'est les injures, effectivement, les propos sexistes, racistes, homophobes, la diffamation, le droit à l'image qui est malmené en permanence. On parlait des filles, hein, faut quand même dire que les filles sont très, malheureusement pour elles, parce qu'elles sont co-actrices malgré elles de ça. C'est-à-dire que les filles vont beaucoup plus mettre de choses en ligne que les garçons. Les garçons sont très voyeurs, commentateurs sur Internet, mais mettent très peu d'éléments d'eux et d'images encore moins. Les filles vont beaucoup, beaucoup mettre d'images d'elles-mêmes, entre copines, mais aussi pour que les garçons disent ce qu'elles pensent, les valident comme filles, en fait, et comme futures femmes. Est-ce que je suis femme? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis sexy? Est-ce que je suis populaire? Est-ce qu'on me trouve belle? Donc, comme elles mettent beaucoup d'elles-mêmes, ben, elles donnent effectivement beaucoup de moyens aussi, éventuellement, de détourner les images, les commenter et d'être victimes.
Mmh. On parle d'un phénomène qui s'appelle le happy slapping. C'est quoi?
Alors, le happy slapping, d'ailleurs, c'est un des premiers délits sur Internet qui a été vraiment spécifié dans la loi. C'est le fait, effectivement, de mener une agression contre quelqu'un pour la filmer et la diffuser. Donc, on agresse. Pour le faire, on filme.
On agresse physiquement.
On agresse physiquement, vraiment. On filme. Et il faut les trois. Et on diffuse. À savoir que les trois auteurs, agresseurs, celui qui a filmé et celui qui diffuse, sont tout autant coupables vis-à-vis de la loi et responsables. Mmh. C'est très important parce que c'est vraiment spécifique, le happy slapping.
Et ça, ça apparaît maintenant dans votre étude, Catherine.
Oui, il y a trois choses graves qui apparaissent. Le happy slapping, c'est quand même 2% déclaré, 2-3% des collégiens. Déclare avoir été victime de happy slapping, ce qui est un sujet très grave quand même.
Ah oui, et puis sur la masse, ça fait du monde.
Le deuxième, c'est que le cyberharcèlement, c'est-à-dire quand ça se répète, ça, c'est 4-5% quand même des collégiens. Et quand ça se répète, là, on rentre dans une problématique de harcèlement qui peut être très destructrice pour les jeunes, parce que ça provoque des mises à l'écart. Mmh. Et le troisième facteur, c'est qu'on voit bien que ceux qui connaissent la cyberviolence, et surtout ceux qui la connaissent répétée, sont ceux qui sont aussi plus victimes. Par exemple, il y a 30% des collégiens qui déclarent avoir été victimes d'une bousculade, vous voyez.
Oui.
Ben, quand ils ont des attaques de cyberviolence, ça double. C'est-à-dire, c'est 60%. Donc, c'est pas sans lien non plus avec ce qui peut se passer réellement.
Et le problème, ensuite, Justine Atlan, c'est que ces ados-là ont du mal à le dire, à en parler à leurs proches, à l'établissement.
Ils ont beaucoup de mal à en parler, d'abord parce que ce sont des victimes, et comme toutes les victimes de tout d'ailleurs, si elles sont victimes, c'est aussi parce que l'agresseur sait très bien que ce sont des gens qui ne vont pas en parler, qui vont avoir du mal à en parler, qui vont se culpabiliser. Ce sont souvent des enfants qui ont peu, voire pas d'estime d'eux-mêmes, donc, et qui ont des gros problèmes de communication. Ils ne savent pas se défendre, ils ne savent pas dire non. C'est pour ça qu'ils sont victimes. Donc évidemment, porter l'information à quelqu'un, ça va être compliqué. Les parents sont les premiers, en fait, très souvent, hein, qui sont quand même informés, avec les amis. C'est un peu la boucle. Mais pour avoir de l'aide, c'est compliqué, parce que les amis ne sont pas forcément ceux qui peuvent aider, les parents non plus. Donc on a besoin, à un certain moment, que l'établissement soit effectivement informé et soit responsabilisé face à ça.
Ça veut dire qu'il faut que l'élève, il aille voir quelqu'un dans son établissement?
Il faut qu'il puisse effectivement signaler à quelqu'un. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits au niveau de l'éducation nationale depuis 3 ans, avec une grande campagne là-dessus, vraiment énormément d'informations, et de plus en plus, les établissements et les chefs d'établissement sont sensibilisés là-dessus et accueillent maintenant ce type de dénonciation.
Je vous rappelle qu'on attend vos témoignages, hein, au 3210, notamment si vos enfants en ont été victimes, mais au-delà de faire un signalement à l'établissement, il n'y a pas matière à porter plainte?
Alors, je voulais juste dire qu'entre signaler l'établissement et porter plainte, on est quand même sur Internet. Donc, tous les réseaux sociaux, notamment les plus importants, les plus gros, inclus dans leur fonctionnement du signalement. Donc quand on est victime de cyberharcèlement sur Facebook, sur Twitter ou ailleurs, on peut signaler sur Facebook, sur Twitter ou ailleurs qu'on est victime de cyberharcèlement. Ouais. C'est spécifié en tant que tel parce que c'est vraiment des cas graves qui traitent en premier.
Ouais.
Et dans ces cas-là, les contenus ou les profils peuvent être supprimés. Nous, il se trouve que chez e-Enfance, nous avons en plus des accords privilégiés avec ces réseaux sociaux qui fait que quand ça nous est porté à notre connaissance, on peut vraiment supprimer en quelques heures un profil usurpé ou des images.
En fait, on voit dans notre enquête qu'il y a... plus d'un tiers des collégiens qui sont victimes de cyberviolence qui n'en parlent strictement à personne, même pas à leurs copains. Et je trouve que c'est ça le vrai problème.
Ils attendent que ça passe, peut-être.
C'est exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'ils sont d'abord victimes, ils se disent effectivement que ça va passer, c'est pas facile d'en parler, même à leurs copains. Mais ça, c'est la première chose sur laquelle il faut travailler. Il faut que les gamins en parlent. Alors, il faut qu'ils choisissent qui en parler. Ils en parlent plus souvent à leurs parents qu'à un adulte du collège. Ça vient à l'adulte du collège. Mais dès que les parents le savent, il faut se rapprocher aussi du collège parce qu'on peut mieux agir à deux Ce qui est important dans un collège, c'est qu'on porte assistance au gamin en question, d'abord quand même. Je veux dire qu'on l'accompagne. Ensuite, qu'on voit avec l'ensemble des autorités et les parents qu'est-ce qu'on fait au point de vue légal, au point de vue de l'arrêt, etc. Y compris si on trouve le coupable à différentes sanctions disciplinaires dans l'établissement.
Mais il y a de la prévention.
Mais surtout, voilà, c'est que quand il arrive un acte individuel, il faut s'en servir pour faire une information sur l'ensemble du collège, c'est-à-dire sensibiliser les autres collégiens et leur dire voilà ce qui s'est passé, faire comprendre que ce n'est pas rien et que c'est pas parce qu'on écrit un truc ou qu'on passe une photo désobligeante sur internet que c'est rien. Non, c'est grave, c'est pas rien.
Justine Atlan, faut faire plus de prévention.
Faut faire plus de prévention, on est un peu les seuls à en faire, mais on est content d'en faire quand même, c'est notre métier. On intervient dans tous les jours, dans tous les collèges en France pour sensibiliser les élèves à ces types de problèmes, soit en cas d'urgence parce qu'il y a eu un problème avéré, soit pour prévenir. Et je donne juste un numéro qui est le numéro vert Net Écoute, le 0800 200 3x0, 0800 200 000, qui est le numéro que nous opérons et où vous pouvez déclarer des cas de cyberharcèlement et on vous aide à les résoudre.
Merci Justine Atlan, directrice de l'association e-enfance, et merci à Catherine Moisan, directrice de l'évaluation de la prospective et de la performance au ministère de l'Éducation nationale. On fait une petite pause et nous attendons vos témoignages. 32 10.